mon infatigable mémoire elle-même est en danger de faiblir. Il était temps que j'ajoutasse, à l'intention d'une lointaine postérité, un long codicille au court testament que l'on ouvrira bientôt. Certains ont nourri le projet de m'inhumer dans la poussière de Westminster, comme si ma gloire était déjà si établie qu'une société elle-même si établie pût lui rendre impunément hommage après en avoir tant discuté. Ô vanité des vanités! Cette réputation que je n'ai point briguée, qui est venue trop souvent me poursuivre et me déranger dans ma studieuse retraite du Kent, parmi les pigeons et les lapins, cette renommée scandaleuse, insolente et insolite, m'apparaît aujourd'hui tel un vêtement d'emprunt, tel ce costume sinistre et dérisoire dont la piété aveugle habille les dépouilles funèbres pour dissimuler leur néant. Le pallium de la gloire m'embarrasse tout à coup parce que j'y subodore de malentendu. J'ai complaisamment laissé croire que ma grandiose théorie de l'évolution des êtres vivants, d'où découle l'évêque Wilberforce l'a bien vu, l'ascendance animale de l'homme, m'avait été inspirée par une foule d'observations, fruit de ma croisière de 1831 sur le Beagles, d'une lecture de Mathus en 1837, ou de la patiente étude des méthodes de sélection chez différents éleveurs. Fumée, faux semblant que tout cela. En fait, comme le lecteur de cette confession a déjà pu s'en rendre compte, dès l'automne de l'année de 1827, à l'âge de 18 ans, l'âge des imprudences décisives, je faisais mieux que d'échafauder des hypothèses transformistes, grimpé nu dans un olivier, je tenais sous mon regard fasciné la preuve bien vivante et frétillante de toute l'évolution. Et cette preuve, non seulement je l'ai vue, de mes yeux vus, mais je l'ai eue des mois entre mes jambes. J'ai connu le bonheur de la palper, de la caresser, de la mordiller. Je l'ai mouillée de ma salive et arrosée de mes pleurs. J'ai dormi des nuits entières, les doigts serrés sur ses nœuds roses. Ô petite que chérie, que bénie, que miraculeuse, que de ma jeunesse, ineffaçable souvenir. Je dois humblement admettre à présent que toutes mes réflexions sont parties de là, d'une expérience si intime, si bouleversante, que les seules exigences de la pudeur, à défaut de bien d'autres présents motifs, devaient rigoureusement m'interdire d'en faire mention. Hélas, à l'instant du bilan de toute une vie, je ne saurais me dissimuler que mes multiples observations et vérifications subséquentes gardent un caractère aléatoire, que j'ai sans cesse marché vers des horizons qui me fuyaient, tandis que ma si précieuse découverte de l'automne 27 persistait à faire figure de cas isolé. En d'autres termes, la meilleure preuve de l'évolution souffre d'être unique jusqu'à nouvel ordre, et toutes les autres preuves que j'ai pu réunir par la suite souffrent de n'être point suffisamment probantes. Affectant plus d'assurance que je n'en éprouvais, j'aurais traversé un désert poussé par une queue que je croyais un guide. Cette douloureuse contradiction a usé mes faibles forces et m'a fait vieillir avant l'âge. Je suis à la veille de succomber dans le plus décevant des brouillards, celui qu'on a répandu soi-même en cherchant un surcroît de lumière. Le doute me ronge cruellement, après de si belles espérances quant à la valeur de plus de 40 ans de travaux. Et à cette déception s'ajoute un lancinant scrupule de nature plus personnelle. L'effort acharné d'une longue existence n'aurait-il pas été, au fond, sous le masque hypocrite de la probité scientifique, la plus désespérée des tentatives pour justifier une expérience amoureuse inavouable? Malgré tout, dans 100 ans d'ici, les progrès attendus des sciences naturelles et de la biologie m'auront assuré une juste place, celle du rêveur impénitent ou celle de l'intuitif précurseur qui n'avait pas les moyens de ses vastes ambitions. Et quand ce texte sera publié, ma juvénile aventure de ce fatidique automne 27 prendra tout son sens, pittoresque accident sans lendemain ou aurore des temps nouveaux. Pour le moment, ce siècle de répit m'a invité à une sincérité de fait et même de vocabulaire bien au-dessus des conventions qui régissent notre époque. Ce n'est plus aux contemporains de Disraeli et de la reine Victoria que je m'adresse, mais aux hommes libres d'un radio futur que la science aura sans doute dégagé des idées arbitraires et des passions malsaines. si le temps ne travaille point pour ma réputation, il travaillera en tout cas pour le bonheur terrestre des animaux et des humains confondus dans une même fraternité d'origine. Et de mon vaste labeur, une proposition bien assurée demeurera peut-être flatteusement attachée au nom de Darwin. Si ce n'est pas l'homme qui descend du singe, c'est la femme. Charles Robert Darwin, membre de la Geological Society.